Le 22 janvier prochain se déroule une conférence de Anne Lebris, docteur en sociologie et enseignante à l'Université de Rennes 2 dans le cadre des Mardis de l'égalité. Ce mois-ci, on parle égalité, sexualité et maternité au Maghreb. Ça se déroule au PNRV à Rennes 2 et pour en parler aujourd'hui, on accueille donc Anne Lebris. Bonjour.
Bonjour. On parle de Maghreb, pourtant la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, revenir sur cette définition du Maghreb et pourquoi c'est intéressant de regrouper ces pays ensemble ?
Alors, au départ, mes principaux travaux traitent de la Tunisie. Et dans une approche comparative, on a pensé avec toute l'équipe qu'il était très intéressant de comparer à la fois en termes des droits des femmes, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, dans ce qu'on appelle le petit Maghreb. Parce que dans le grand Maghreb, on inclut aussi la Mauritanie et la Libye. Et ici, c'était intéressant de voir à quel point ces pays sont très différents en termes de droits des femmes, en termes de code de la famille, en termes d'évolution aussi. Depuis les décolonisations. On a au Maroc et en Tunisie des protectorats, alors qu'en Algérie, c'était des colonies de peuplement. Donc, on a des situations historiques très différentes. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment la question des femmes a évolué, comment le droit a évolué dans un sens, puis dans un autre. Et concernant ma thématique précise, qui est la maternité célibataire, il était vraiment très intéressant de voir que la Tunisie a eu vraiment une politique avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'IVG a été autorisé, libéralisé avant même les femmes françaises. Donc dès 1973, on a permis aux femmes mariées, mais aussi célibataires, ce qui est un fait unique dans le monde arabo-musulman, donc d'avorter, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est toujours pas le cas au Maroc et en Algérie. Et pour autant, malgré cette vitrine un petit peu des droits des femmes qui sont très avancées en Tunisie, on constate que la situation, le vécu de ces mères célibataires est tout aussi dramatique en Tunisie qu'au Maroc ou en Algérie, voire pire, puisque on accepte encore moins, à cause des politiques qui ont été menées, on accepte encore moins leur existence, puisqu'elles traduisent, l'existence de mères célibataires traduisent l'échec de la politique tunisienne en matière de prévention des grossesses non désirées. Justement. Donc voilà pourquoi. Mais juste une petite parenthèse, faut bien avoir en tête que le Maghreb n'est pas un tout uniforme. Il va y avoir vraiment des différences en termes de normes, des différences linguistiques aussi qui sont avec des régions berbérophones, etc. En termes de droit, mais aussi les différences en termes de si on habite dans les côtes, dans les terres, et surtout en termes de classe sociale, ce qui va être vraiment très important, la différenciation de classe sociale.
Justement, par rapport à l'impact des politiques, de donner l'exemple de la France, on a pu voir qu'il y a des politiques qui favorisent les naissances ou bien au contraire qui les restreignent. Je pense à l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le développement du tiers-État, par exemple, qui a beaucoup favorisé les naissances. Donc, il y a un contrôle des natalités, des maternités. Et donc, les politiques familiales impactent la vie privée des femmes,
exactement,
forcément. Oui. Justement, comment ces politiques se traduisent-elles au Maghreb ?
Alors, justement, la Tunisie a très tôt, sous le régime de Bourguiba, qui a vraiment conquis l'indépendance, ils ont vraiment mis très tôt en place une politique de planification familiale, puisqu'il pensait qu'on avait besoin, dans une stratégie, il a instrumentalisé quand même la cause des femmes, c'est-à-dire il a dit on a besoin des femmes, et il a réinterprété la loi musulmane en faveur des femmes. Il a dit non, je ne sors pas du Coran, mais je le réinterprète pour favoriser les femmes. Et il a vraiment été dans une interprétation très libérale qui a permis justement d'accorder de nombreux droits aux femmes, ce qui n'était pas le cas en Algérie et au Maroc. Mais cette approche, je dirais, instrumentale et cette approche aussi de la planification familiale a eu des effets positifs, puisqu'on a eu la Tunisie est le premier pays à être rentré dans une transition démographique, donc à avoir une baisse de la natalité. Mais plusieurs sociologues tunisiennes, notamment dans les associations de femmes démocrates, ont montré aussi le revers de cette médaille, c'est-à-dire que certaines femmes venaient pour avoir une contraception ou pour un IVG et repartaient avec une ligature des trompes, sans forcément être mises, sans consentement. Donc il y a eu une politique très forte, avant-gardiste, mais les écrits des sociologues féministes tunisiennes montrent aussi le revers de la médaille.
Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur cette situation puisque la vice-présidente de la Ligue des électrices tunisiennes, Turkia Benkeder, a avancé qu'environ 75% des femmes ne voulaient pas participer aux élections législatives et à la présidentielle de 2019. Et elle estimait justement que cette réticence était principalement due à l'absence d'amélioration de leur situation sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat ? Est-ce que le vote, en fait, n'a pas l'impact qu'il devrait avoir pour les femmes ?
Alors, moi, personnellement, donc depuis qu'il y a eu la révolution de la chute de Ben Ali, je suis retournée plusieurs fois en Tunisie, mais j'avais, entre guillemets, le terrain auprès de notamment des mères célibataires que j'ai enquêté était terminé. Donc, je n'ai pas pu voir, je ne peux pas aujourd'hui parler de la Tunisie actuelle en termes de, voilà, des votes, etc. Puisque voilà, je préfère pas avoir de voilà.
Ça se comprend. Ouais. La question de la condition des femmes, pardon, au Maghreb et au carrefour de la tradition donc religieuse et politique, qui est donc menée par les dirigeants. Justement, à quel degré ces deux pôles de pouvoir, la politique et la religion, s'influencent-ils ? Et en fait, la politique d'ouverture sur la question des femmes est-elle en difficulté face au poids de la religion musulmane pour vous ?
Alors, en fait, pour chacun des trois pays, ça s'est vraiment passé différemment. Bien souvent, il y a une hiérarchie des normes entre les normes religieuses et les normes sociétales, les normes, et il peut y avoir un décalage entre les deux. Et donc, dans beaucoup de domaines, ce sont souvent les normes internationales, notamment, qui prévalent. Mais dans le domaine qui est considéré comme de l'ordre de la tradition, et donc bien souvent la famille, et donc les femmes et les enfants, là, on va notamment avoir comme argument qu'il faut rester fidèle à son identité nationale, notamment au Maroc. C'est ce que condamnent d'ailleurs les militantes féministes, que dans ils ne ratifient pas, notamment le Maroc n'a pas ratifié toutes les clauses en fait des organisations internationales au nom de l'identité nationale. Et donc bien souvent il y a un lien très fort entre tradition, femme et aussi donc famille, qui reste de l'ordre du traditionnel donc, et du sacré aussi.
Justement, vous parlez de ce code de la famille, je crois qu'on appelle ça la Moudawana, non ?
Au Maroc, oui.
Oui, au Maroc, c'est ça. Et justement, est-ce que ce code, qui est déjà une conception politique de la famille au Maghreb, est-ce qu'il est si difficile que ça à modifier dans ces trois pays ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'ancré ? Non.
Alors, il y a deux choses à voir. À la fois, il y a le code, c'est-à-dire la loi, et les pratiques. Parfois, et je pense que c'est vraiment une question de classe sociale. Si on prend l'exemple des mères célibataires, donc qui vont avoir un enfant hors mariage, il faut savoir. Donc, elles sont passibles d'emprisonnement et d'amende, puisque ça veut dire qu'elle est sous-entendu une prostituée. Puisqu'à partir du moment où on a une sexualité hors du cadre marital, donc on est automatiquement, voilà, on sort du schéma matrimonial traditionnel. Donc, on est considéré comme prostituée, donc avec un risque d'emprisonnement. Mais on peut voir que la loi n'est pas forcément appliquée. Donc, ça va dans un sens comme dans un autre. Il y a, par exemple, en Tunisie, j'avais assisté à une conférence où, alors aujourd'hui, ça a changé, mais au niveau de l'héritage, par exemple, une fille ne peut pas hériter autant qu'un garçon. Et dans beaucoup de familles, notamment des familles de classe aisée, mais pas forcément, les parents avaient déjà un partage égalitaire malgré la loi qu'il n'était pas. Vous voyez, il y a des pratiques qui devancent parfois la loi et parfois c'est l'inverse. Donc, ça dépend vraiment des configurations à la fois dans chaque pays, et selon les classes sociales, selon les régions, il y a vraiment. Selon les familles, tout simplement aussi. Donc, il y a vraiment des adaptations voilà, par rapport à une loi qui n'est pas rigide. Il y a toujours des façons de contourner la loi, de la détourner, de la réinterpréter. Il y a des cas de jurisprudence aussi pour les cas de maternité célibataire. Donc, c'est vraiment. Rien n'est figé, finalement.
Je pense à ça, vous en parliez par rapport avec la prostitution. En fait, je pense à un livre que j'ai lu qui s'appelle L'histoire de la prostitution. C'est une toute petite BD, je ne me souviens plus du nom de l'édition, mais c'est excellent. Il parlait également de féminisme. Et la conclusion de cet ouvrage parlait de la prostitution, surtout pour les femmes de haute classe, comme un moyen de libération, parce que du coup, elles étaient considérées comme des droits d'hommes. Est-ce que ça peut être le cas dans ce cas-ci ou pas du tout ?
Alors, justement, c'est intéressant puisque, en fait, bien souvent, est taxée, entre guillemets, de prostituée toute femme qui va sortir hors du schéma classique. Donc, c'est une sorte de stigmatisation de femme, de toute femme qui aurait une activité sexuelle qu'elle s'approprie. C'est-à-dire, elle devient des sujets sexuellement actifs. Et donc, forcément, le terme prostitution. Parfois, on va parler de prostituées, de femmes qui n'ont pas de... Dans l'imaginaire collectif, une prostituée, c'est une femme qui va avoir des relations, des prestations rémunérées, etc. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des mères célibataires que j'ai enquêtées, qui sont dans des relations de plus de 10 ans avec leur partenaire. Mais à partir du moment où elles ont une activité sexuelle, la prostitution sert plus à démarquer les bonnes femmes et les D'accord. mauvaises femmes. Mmh. C'est vraiment une stigmatisation de l'activité sexuelle. Et quand vous parlez de prostitution, de luxe, etc., ça, je n'ai pas spécialement étudié. Mais par contre, j'ai remarqué que beaucoup de femmes ont des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est un fait, puisque l'âge au mariage est de plus de 30 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Donc ça laisse, si on respecte les codes sociaux en vigueur, ça laisse une abstinence qui paraît interminable. Mmh. Donc évidemment, il y a une sexualité prénuptiale. On n'a aucune donnée là-dessus. C'est-à-dire, sauf quand c'est abordé dans le cadre sanitaire, c'est-à-dire pour les questions de sida, etc. Là, il y a quelques enquêtes qui sont financées, mais sinon, on n'a aucune donnée. C'est-à-dire, même pour la contraception, on va avoir uniquement des données des femmes mariées. Par exemple, on a les taux de prévalence contraceptive, mais uniquement des femmes mariées. On n'a aucune donnée. Donc même quand je vous parlais des mères célibataires, même leur existence statistique, on n'a même pas d'existence statistique puisqu'elles ne sont pas censées exister. Vous voyez, et c'est, bon. Donc c'est un sujet qui est assez complexe et qui a été longtemps invisibilisé. Et aujourd'hui, depuis donc 5-6 ans, il y a des enquêtes qui commencent à sortir.
Justement par rapport à cette conception, parce que c'est une conception particulière, c'est par rapport au code de la famille, on en parlait tout à l'heure, ça montre une conception politique, déjà l'existence même d'un code de la famille, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Forcément, le privé, l'intime est politique, puisque c'est le droit qui va à travers des règles, des lois, etc., qui va traduire des faits en des crimes. On parle souvent d'ailleurs de mères célibataires, par exemple, de récidivistes, de criminels, etc. Mais justement, on peut plus facilement, selon la classe sociale, on peut plus facilement se soustraire aux droits ou pas. Si vous allez au Maroc, en Tunisie, effectivement, il y a des couples qui n'ont pas de lieu, c'est-à-dire il n'y a pas de lieu intime, ils n'ont pas d'appartement parce qu'ils ne sont pas possédants. Ils vont beaucoup plus se faire attraper effectivement par la police, être arrêtés, jugés, etc., que des couples dans l'élite ou dans les classes sociales très aisées qui ont, je connais beaucoup de personnes, qui ont leur appartement, qui ont leur indépendance et qui ont des relations très durables, etc., sans aucun souci. Ce sont vraiment, donc il y a vraiment une question, c'est comme si, on est toujours dans cette idée que la sexualité des pauvres serait plus dangereuse, serait plus, vous voyez, il y a cette question-là, alors que dans les hautes sphères de la société, il y a beaucoup de choses qui se passent hors du cadre du mariage, vous voyez, mais il y a mais c'est partout, je dirais, c'est quelque chose d'assez, non pas universel, mais qui transcende quand même beaucoup de sociétés, cette stigmatisation de la sexualité des plus pauvres, etc., avec l'idée que les enfants vont être, on retrouve beaucoup ce discours-là, des futurs délinquants, etc., d'où la prise en charge de ce problème social.
Pardon. En France, le procès de Bobigny est un procès qui a fortement marqué la société française. Donc, pour petit rappel, c'est un procès qui a eu lieu en 1972 où 5 femmes ont été jugées pour avortement, dont une femme suite à un viol. Il était mené par l'avocate Gisèle Halimi et il a fait beaucoup polémique, et c'est notamment, grâce à ce procès qu'en fait on a pu avoir accès à la loi Veil en 75. Ce que je veux dire en donnant cet exemple, c'est que la société a impacté la politique à ce moment-là. Il y a eu une prise de pouvoir de la société civile. Est-ce que pour vous, c'est possible aujourd'hui au Maghreb ? En fait, quelles sont les formes de pouvoir aujourd'hui ? Quels moyens pour les femmes maghrébines aujourd'hui pour essayer de renverser la tendance ?
Alors, déjà en Tunisie, les femmes ont énormément participé à la révolution qui ont précipité la chute de Ben Ali. Elles ont vraiment été des actrices très très importantes, comme dans toutes les histoires de lutte. En général, les femmes ont toujours été là, mais elles ont été invisibilisées très souvent, l'histoire faite par les hommes pour les hommes. Et pendant longtemps, elles ont attendu notamment, elles ont été invisibilisées aussi dans les luttes pour les indépendances. Et elles avaient des revendications dès le milieu du XXe siècle, elles avaient des revendications qui étaient légitimes, et on leur disait, attendez, on défend la cause nationale et ensuite on arrivera à la cause des femmes, plus spécifiquement, etc. Mais soyez d'abord solidaires à la cause nationale. Et puis, donc ça, les écrits des féministes tunisiennes, marocaines, algériennes ont beaucoup écrit sur ces questions-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, Il y a beaucoup, ça a l'air de bouger un petit peu plus. On entend des faits divers, etc. Mais ça reste encore, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais le travail militant, associatif des femmes et des féministes de ces trois pays est très, très important.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Anne Lebrise. Donc petit rappel, vous interviendrez mardi 22 janvier dans le cadre des Mardis de l'égalité à l'Université de Rennes 2 sur le campus de Villejean. Ça se déroule donc au PNRV, le thème égalité, sexualité et maternité au Maghreb. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de l'université, c'est gratuit, mais il faut impérativement s'inscrire.